Bonjour à tous, et comme vous savez, on est dans une série qu'on a commencé, la série sur la prière. On est en train de consacrer le mois de février à la prière. Et moi, je suis vraiment prêt de parler de la prière ce matin, parce que en rentrant ici ce matin, Dieu m'a vraiment béni. Dieu a exaucé une de mes prières que j'ai faites cette semaine. Et Dieu a tenu avant même que je suis rentré et avant même que je vienne parler ici, Dieu voulait me montrer, regarde, j'ai entendu ta prière, j'ai exaucé ta prière. Laissez-moi vous raconter, je ne donne pas de détails pour les noms et tout ça. Il y a quelques temps, on s'inquiète des gens à l'Assemblée, quand on n'a pas de nouvelles, on est comme des papas, là, puis des mamans, là, puis on veut savoir comment ça va, puis tout ça. Puis il y avait un couple que je ne voyais plus à l'Assemblée, on ne voyait plus à l'Assemblée au Conseil, on était un peu inquiet, tout ça, et on commençait à prier pour eux. J'assieds le joint, je suis allé sur Internet, je ne trouvais pas de numéro. Imagine tout le monde en 2009, pas qu'à trouver un numéro de téléphone. Alors, écoute, je cherche, puis tout ça, je demande à un, puis l'autre, vraiment mal tombé, je ne suis pas capable de trouver. Alors, qu'est-ce qui reste? On a commencé à prier, hein? Et c'est drôle parce que Richard Hull parlait de ce cahier de prière avec des Moi, j'ai un cahier de prière chez nous avec des noms dedans. Alors, j'ai écrit le nom de ce couple à l'intérieur. Telle famille, on aimerait les revoir à l'Assemblée, puis savoir que ça va bien, consacrer, puis qu'ils se consacrent au Seigneur, puis tout ça, puis peut-être qu'ils sont déjà consacrés, peut-être qu'ils allaient ailleurs, je ne savais pas. On ne savait rien, mais fait que le cœur, hein, le parent, si tu veux, quand tu te soucies, et on voulait savoir si ça allait bien. On n'a pas de nouvelles. Alors, moi, je priais pour eux chaque matin. Chaque matin, je priais pour eux. Les noms étaient là. Puis c'est drôle parce que cette semaine, je me suis dit, check bien ça, je vais les voir dimanche. Regarde bien ça, Dieu va... Je prie pour eux, je suis certain, Dieu va me faire un clin d'œil, puis ils vont apparaître dimanche. Comme de fait, ce matin, en rentrant ici, je tombe direct. Ah! Et là, il a fallu que je lui parle. J'ai dit, écoute, tu sais pas, t'es pas au courant, mais cette semaine, je priais pour toi. Je voulais te revoir. Et en tout cas, fait que moi, est-ce que je veux parler de prière, tu penses? On parle de prière ce matin. Je suis en forme. Je veux parler de prière. Dieu a exaucé une de mes prières. Alors, Dieu est bon, hein? C'est bon. On va apprendre comment prier, hein? Vous savez, les disciples voulaient savoir comment prier. On veut apprendre comment prier. Les disciples sont allés voir Jésus, puis ils ont demandé, donne-nous un cours sur la prière. On aimerait avoir des crédits, là, avoir un bac de prière, tu sais, comme genre. Donne-nous un cours sur la prière. On veut apprendre à prier. Et Jésus comprend très bien que c'est une des choses qu'il veut voir, certainement, dans la vie des chrétiens, c'est une vie de prière. Alors, Jésus a exaucé, Jésus leur a dit oui, certainement. Alors, il a donné un cours de prière à ses disciples. Mais il y a différentes façons d'apprendre à comment prier. C'est justement de prendre un cours, comme les disciples ont fait avec Jésus-Christ. Une autre façon, c'est de t'asseoir avec quelqu'un qui prie bien. Hein? T'entends des gens comme M. Gazdic. J'aimais tellement prier avec M. Gazdic. Tu t'assois à côté. Hein? Yannick, t'en souviens-tu? Ah, tu t'assois à côté de cet homme-là. Il me semble que je passais mes journées assis à côté de M. Gazdic. Puis, il y a un genre d'accent européen, là. Il vient de Tchécoslovaquie, je pense. Hein, quelque chose. T'as un accent. Il fait juste dire Dieu. Puis là, t'as l'impression que Dieu est là, là. T'sais. Là, t'es là. Il y a des gens comme ça qui prient, puis tu sens. Là. Ah, ça, c'est des gens de prière. Eh bien, c'est ça qu'on va faire ce matin. On va s'asseoir à côté de quelqu'un qui prie vraiment bien. En passant, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Hein? T'entends des gens, des fois, qui viennent d'arriver au Seigneur, puis c'est très beau. Il y a une pureté, c'est beau. Ça n'a pas besoin d'être très complexe. Et ce n'est pas tellement le choix des mots comme le cœur, évidemment. N'est-ce pas? Moi, je pensais, quand je suis venu au Seigneur, je pensais que c'était... J'étais tellement nerveux à prier en public. Tu viens d'accepter le Seigneur et tu entends toutes ces belles prières dans l'Assemblée. Peut-être que vous êtes comme ça, vous êtes ici ce matin, ça fait pas longtemps, peut-être vous êtes au Seigneur, ou vous explorez, vous regardez, puis tout ça. Vous n'avez jamais prié en public. Et ça, ça vous énerve un peu. Hein? Comme tantôt, Alexandre nous a demandé de... On se met en petit groupe. Mais je peux vous dire que c'est troublant pour certaines personnes de se mettre en petit groupe et je vais devoir prier. Et je comprends ça, j'étais là. J'étais là, je me rappelle. Moi, je voulais tellement prier en public. J'étais mercredi soir, on avait des réunions de prière à Laval, à Chamédé, puis là, j'allais là depuis quelques mois. Ça faisait 6 mois que j'allais là. Puis j'entendais tout le monde prier, puis tout ça, et après l'autre, puis ça, là, j'étais assis, puis là, j'étais nerveux, puis là, je me disais, ah, s'asseoir. Oui, oui, asseoir, là, je prie en public. OK. Puis là, j'essayais de trouver mes mots, là, tu sais, OK, là, je vais dire ça. Puis là, je veux pas avoir l'air niaiseux, il faudrait que je dise ça. Puis là, tu sais. Fait, mais là, quand c'était le temps. J'étais bloqué là. Pas capable de prier. Je l'ai là, mon ami. Gêné, là. Pas capable. Pourtant, j'étais chez nous, puis je priais très bien chez nous. C'est correct. Pas capable. Finalement, elle a dit, mercredi suivant, j'ai dit, il faut que je prie. C'était un combat. Je tremblais. Tellement que finalement, quand j'ai commencé, j'ai eu assez de courage à prier en public. Là, il y avait comme un moment solennel. Puis personne priait, tu sais. Là, j'ai dit, c'est à soir, là. Hey, j'ai commencé à prier, puis honnêtement, j'ai pas une voix de fille. Hein? J'ai commencé à prier. Merci Seigneur, et là, le Seigneur a réglé mon cas. Il a dit, tu voulais être bien grand, je me suis arrangé que tu sois bien petit. Hein? Tu veux faire ton frais? Alors, regarde ce que ça donne. Oh boy, fait que j'ai pas prié pendant une couple de mois après ça, mais évidemment. Aïe, aïe, aïe. Où tu testes, hein? Dieu. OK, je suis correct. Dieu. Oh. Alors, je vous comprends, les amis, si vous êtes là, je le sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a qui étaient mal à l'aise tantôt, d'accord? Je le sais. C'est correct. On comprend ça. Ça fait son temps, puis c'est correct. Ce matin, on va s'asseoir à côté d'un bonhomme, un homme de Dieu qui prie. Il prie tellement bien. Et on va voir son cœur. Et c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un homme de prière. On voit plusieurs prières dans ses lettres et certainement, on va en choisir une ce matin. On va s'asseoir à côté de lui, puis on va regarder comment est-ce qu'il prie. Parce qu'il va aller un peu plus loin que la plupart de nos prières. Et on veut se rendre là dans notre vie de prière, certainement. Venez me retrouver dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Deux Thessaloniciens, 1. Une lettre qui est adressée à l'Église de Thessalonique et ça débute par une prière et c'est cette prière-là qu'on va regarder. Alors vous êtes là, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Ça commence par Paul. Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifié en lui selon la grâce de notre Seigneur Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la prière de l'apôtre Paul débute avec des remerciements au Seigneur. Il débute sa prière en remerciant le Seigneur, en rendant grâce. Paul veut remercier le Seigneur, son cœur. On dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, la première chose qui sort du cœur de l'apôtre Paul, c'est des actions de grâce, c'est des remerciements au Seigneur. Et c'est le cœur de Paul. Paul était reconnaissant au Seigneur de voir les signes de grâce dans la vie des autres. Pour quelle raison est-ce qu'on remercie le Seigneur lorsqu'on remercie le Seigneur? Certainement, on va remercier le Seigneur pour la nourriture. Jésus l'a fait. Remercier le Seigneur pour la nourriture. On remercie le Seigneur de ce que nous avons la nourriture sur la table à tous les jours. On peut manger, ce n'est pas donné à tout le monde. Certainement, on remercie le Seigneur pour la sécurité. Parfois, on peut passer à travers des accidents de voiture et lorsqu'on s'en sort sans rien, on bénit Dieu, on remercie Dieu pour la sécurité. Et certainement, on va prier le Seigneur pour la guérison d'un enfant. On va prier pour la santé et on va remercier Dieu lorsque cet enfant-là est en santé. Je vous ai raconté récemment comment ma fille Julie, pendant 5 ans avec Joël, priait pour avoir un petit enfant. Ils voulaient adopter un enfant. Et ils étaient ouverts à adopter soit en Chine, soit ailleurs et tout ça. Ils n'avaient pas les moyens. Donc, ils priaient Dieu pour ouvrir des portes qu'ils puissent adopter, peut-être même au Québec. Et ils avaient fait une demande 5 ans plus tôt pour avoir un enfant. Après 5 ans, Dieu a vraiment exaucé. Dieu a donné un beau petit garçon. Naissant, 2 jours, est à l'hôpital. Et ils l'ont pris carrément de l'hôpital et puis l'ont emmené chez eux. Et là, ils sont allés à la cour et tout ça récemment pour officialiser l'adoption. Ça prend un certain temps parce que la mère peut changer d'idée. Et là, à notre grande surprise et ne comprenant pas pourquoi, le petit garçon qui s'appelle Mathias fait des crises, fait des convulsions. 4 mois et demi, et il s'agite, il part, il fait des convulsions à répétition. Quand ça commence, il peut être une journée, et lorsque la première convulsion commence, ça commence doux. On le sent partir, ses yeux commencent à reculer. Et il ne bouge pas trop, mais on dirait qu'il part. On dirait qu'il n'est plus là, là. Ça revient. Après ça, il y a une deuxième convulsion qui commence. Et là, il commence à être plus raide. Il bouge un peu. Tu sens qu'il n'est plus là. Et c'est à la troisième convulsion que là, il s'agite. Puis il devient vraiment comme une crise d'épilepsie. Il donne des coups et là, il est méconnaissable. Le problème, c'est que lorsque il arrive à la troisième convulsion, il arrête de respirer. Après la troisième, c'est pour ça qu'ils sont très nerveux pour qu'ils ne se rendent pas à la troisième convulsion, parce que ça devient de plus en plus agressif et probablement que l'agressivité l'emmène au point de dire d'arrêter de respirer. Carrément, il arrête de respirer. Dieu merci, la première fois, c'est arrivé. Alors, la troisième convulsion, Joël est allé à l'hôpital après la deuxième convulsion, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Alors, à l'hôpital, il a fait sa crise, sa troisième convulsion, il a arrêté de respirer. Il était à l'hôpital, donc les infirmières ont crié « code rose » et ils sont toutes parties à courir. Une 30aine d'infirmières, médecins, sont toutes jetées sur lui pour essayer de lui donner de l'air et tout ça. Ils ont fait un paquet de tests, batterie de tests, ils l'ont emmené à Sainte-Justine, Trois-Rivières, ils ne trouvent absolument rien. Et puis, c'est vraiment inquiétant, ils ne savent rien. Même les tests d'épilepsie, aucun signe d'épilepsie dans le cerveau, tout ça, rien, ils ne savent pas du tout. Et ils recommencent. Et là, il a recommencé, il a arrêté de respirer l'autre jour. C'est Joël qui l'a donné la respiration artificielle. Puis là, vous pouvez comprendre, là, ils lui ont donné une dose de médicaments très forte pour au moins stopper les convulsions. Ce n'est pas une question de pilule pour le guérir. C'est juste pour pas qu'il fasse de convulsions pour qu'il ne tombe pas dans la fameuse troisième très agressive qui arrête de respirer. T'sais. Mais il ne faut pas donner ces médicaments-là très longtemps. Ça va avoir des effets. C'est très fort. D'ailleurs, c'est vraiment le summum. C'est trop fort. Ils savent que c'est juste pour un temps, mais ils ne guérissent pas. Ils ne savent pas quoi faire, comment le traiter. Alors, il doit encore retourner à Saint-Justine dans un mois, à Trois-Rivières. Alors, vous pouvez imaginer si ça arrivait en plein milieu de la nuit, qu'il arrête de respirer. Tu ne sais pas, tu dors. Ils ont mis quelque chose, je pense, François était bien gentil, et Charity a donné un genre d'appareil pour savoir quand il arrête de respirer, si ça sonne. Mais vous pouvez imaginer qu'à tout moment, Lise, moi, Julie, Joël, toute la famille, à tout moment, on vit avec ce sentiment qu'il peut mourir à tout moment. Imaginez, là, vous vivez comme ça à tous les jours, où vous traînez ce sentiment-là, cette impression-là, est-ce que Mathias est correct aujourd'hui? Alors, vous comprenez que le matin, quand on parle à Julie, la première question qu'on pose, comment ça va, Mathias? Il n'a pas fait de convulsion hier. On marche au jour le jour. Alors, certainement, lorsque Julie nous répond en nous disant, il va bien aujourd'hui, il a recommencé à sourire. Première réaction qu'on a dans notre cœur, c'est quoi? Merci Seigneur. Chaque jour, merci Seigneur. Il vit aujourd'hui, sans savoir s'il va vivre demain. Alors oui, on prie le Seigneur, on remercie le Seigneur pour la santé de nos enfants, la santé de ceux qu'on apprécie, qu'on aime, de ceux qu'on connaît. On se réjouit de ça et on veut remercier Dieu pour ça. Mais la prière de l'apôtre Paul va aller un peu plus loin. Et je pense que c'est là qu'on doit aller. C'est dans cette direction-là qu'on doit aller aussi. Tout en gardant ces belles choses, actions de grâce pour la santé, la nourriture, nos emplois, tout ça, certainement, on veut garder un cœur d'action de grâce. Mais en même temps, on veut aller plus loin et remercier le Seigneur pour autre chose. Pas juste pour la santé, pas juste pour l'argent, nos emplois, tout ça. Et c'est ce qu'on voit chez l'apôtre Paul, sa prière est encore plus profonde. Et j'aimerais vous encourager ce matin, alors qu'on va regarder la prière de l'apôtre Paul, de demander au Seigneur, « Seigneur, emmène-moi là dans ma vie de prière. Emmène-moi là, Seigneur. » Premièrement, l'apôtre Paul va remercier le Seigneur pour la foi qui grandit chez les chrétiens thessaloniques. Avez-vous remarqué, verset 3, « Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu. » Comme cela est approprié, c'est juste, que votre foi fait de grands progrès. Votre foi grandit. C'est beau de voir comment votre foi grandit. En d'autres mots, vous ne vivez pas sur le statu quo. Vous ne vous contentez pas de ce que vous étiez hier. Vous êtes en train de grandir dans votre foi. Votre vie spirituelle grandit. L'apôtre Paul rendait grâce à Dieu pour la croissance spirituelle des chrétiens thessaloniques. Il se réjouissait de voir les frères et les sœurs grandir dans la foi. Et il bénit Dieu pour ça. Il rend grâce à Dieu pour ça. Il y a certainement une joie de voir des gens que tu as vus à un moment donné et tu les perds de vue pour quelque temps et tu les retrouves quelques années plus tard et ils sont encore plus solides dans la foi qu'ils n'ont jamais été dans le passé. Amen. C'est bon, ça. Hey, hier, on est allé, je donne un cours à Laval sur la prédication. Il y a des jeunes aspirants d'ouvriers, tout ça, qui sont là. Et il y a un bonhomme qui est là, qui s'appelle Alexandre Côte-Noir. Vous ne le connaissez peut-être pas, vous le connaissez peut-être. Vous connaissez Marcel Côte-Noir. Il a eu des enfants, dont un enfant qui est David Côte-Noir. David Côte-Noir a eu des enfants, dont un s'appelle Alexandre Côte-Noir. Moi, j'ai vu Alexandre, j'ai vu là, il était bébé, je l'ai vu naître là, c'était bébé petit, je l'ai vu là. Et hier, je le retrouve, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, là, plutôt au premier cours de prédication, ça faisait la première fois que je le voyais depuis des années. Moi, j'entendais parler d'un Alexandre Côte-Noir qui était dans la cohorte de Laval et qui aspirait dans l'œuvre. Il travaille à temps plein pour Grace to You, pour des cassettes là, puis des CD de tout le ministère de John MacArthur. Et là, de voir qu'il prend un cours apprendre comment prêcher. Ça, c'est quelqu'un qui veut s'impliquer dans son église, en tout cas. Hein? Pour la moindre des choses, là, il veut vraiment là, comme prêcher la parole, il veut donner la parole. Il est très impliqué déjà dans son église. Aïe, ça faisait des années que je n'avais pas vu ce gars-là. Puis d'entendre poser des questions. Pose des questions, puis... il échange avec toi sur des versets, des Écritures. Tu vois qu'il y a comme il y a un mûrissement, il y a une croissance, c'est réfléchi. Tu vois qu'il y a eu des années en arrière d'éducation dans la parole de Dieu. Bon, ça, mon cœur se réjouissait hier. Hey, je remercie le Seigneur pour ces beaux bonhommes-là qui grandissent et qu'on les retrouve. Et les femmes, pareil, qui grandissent dans le Seigneur. Et c'est ça. C'est ça qui est merveilleux. On veut louer Dieu pour les signes de grâce qu'on voit dans la vie des autres. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de faire. Il est en train de remercier Dieu pour la foi qui grandit dans la vie des chrétiens de Thessalonique, alors que Paul s'inquiétait énormément sur l'état spirituel de ces gens-là. Parce que rappelons ce qui s'est passé là, dans le deuxième voyage de l'apôtre Paul dans la ville de Thessalonique. Il a commencé à aller dans les synagogues pour prêcher les Écritures. Il commence à prêcher la parole. Ça n'a pas pris 3 semaines qu'il y a eu tout un complot contre lui. Les Juifs ont monté tout un complot pour l'arrêter. Il s'est retrouvé en prison. Il a fallu qu'il paye une caution pour pouvoir se sortir de là. Et il a fallu qu'il parte en vitesse de la ville, puis il a quitté lui, puis Silas. Les gens étaient très agressifs. C'était pas. Pourtant, c'est une assez grande ville, une ville de 100 000 personnes, une belle ville. Mais les Juifs, il y avait une communauté juive très agressive à l'endroit des chrétiens. Très, très agressif. C'était vraiment pas facile d'être un chrétien dans cette ville-là. Paul a fallu qu'il parte en courant presque. Alors, vous pouvez vous imaginer que. Il écrit sa première lettre de Thessalonique, et je vais vous lire un morceau de cette première lettre. Il s'inquiétait vraiment de leur état, parce que lui-même savait, il avait dû fuir, il a été jeté en prison. Les gens sont très agressifs contre l'Évangile. Alors, il comprenait la pression et la persécution qui s'approchait sur les chrétiens. Donc, lui, il avait vraiment peur de l'état, comment c'était pour être pour les chrétiens de Thessalonique. Est-ce qu'ils vont perdre la foi? Est-ce qu'ils vont se décourager? Est-ce que ça va être tellement dur que l'Église va mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Il était préoccupé par ça. D'ailleurs, on lit son inquiétude dans la première lettre d'un Thessalonicien, chapitre 2, verset 17. Et voici ce que nous lisons. « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. » Ça monte là, son cœur. « Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Donc, l'apôtre Paul s'inquiétait de savoir s'ils allaient se décourager compte tenu de la persécution qui frappait contre l'Église et contre les chrétiens. Très agressif, un milieu très difficile pour l'Évangile, pour être chrétien. Et vous savez, il n'y avait aucun droit pour les chrétiens. Malgré que c'était très difficile, malgré que ces chrétiens vivaient dans une ville très agressive contre l'Évangile, malgré ça, nous lisons verset 3 de 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il dit « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi subsiste. » Non. Elle ne fait pas juste subsister. Votre foi fait de grands progrès. Et ça, c'est fort parce que leur foi fait de grands progrès au milieu d'une ville agressive où c'était très difficile d'être un chrétien. Intéressant, n'est-ce pas? Et cette semaine, dans notre temps de prière, il serait tout à fait approprié, l'apôtre Paul dit, il est tout à fait approprié de rendre grâce à Dieu pour voir le progrès de la foi des autres, frères et sœurs. Cette semaine, dans notre temps de prière, il serait tout à fait juste et approprié de remercier le Seigneur pour la foi des frères et des sœurs qui vont bien. Savez-vous, on prie Parfois, pour ceux qu'on pense vont mal dans la foi, et c'est juste, c'est correct. Constamment, Paul prie pour ces gens-là qui se sont éloignés de la foi. Mais savez-vous qu'on peut prier pour ceux qui vont bien dans la foi? Et dire, hey, merci Seigneur, ces gens-là vont bien. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui vont bien et que leur foi grandit. Bénissons Dieu pour ces signes de grâce dans la vie des autres. Leur foi augmente. En d'autres mots, ils ne sont pas contentés d'être le même qu'hier. Ils veulent grandir. Il se réjouit l'apôtre Paul et bénit Dieu pour ceux qui grandissent dans le Seigneur. Mais non seulement que leur foi grandit, mais leur amour grandit. Il dit, il remercie le Seigneur pour la foi des chrétiens qui augmente. Mais au verset 3, ça continue en disant, « L'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Maintenant, l'apôtre Paul aurait bien pu dire, « Je remercie le Seigneur de ce que votre amour pour Dieu grandit. » Et ça aurait été super. On prend ça pour acquis? Non, il remercie Dieu parce que leur amour à l'égard des autres grandit. Comment ça se voit, ça? Comment on analyse ça? Ah oui, un tel a beaucoup plus d'amour pour les autres. Vous pouvez déjà penser à ça, vous questionnez, comment est-ce qu'on voit ça, que ton amour va grandir à l'égard des autres? Comment tu avais dit ça? Pas évident. Si ça se parle au point que ça arrive aux oreilles de l'apôtre Paul, puis il n'est même plus là, c'est quelque chose de très concret qui se passe. D'accord? Laissez-moi vous montrer une église où il n'y a pas beaucoup d'amour les uns pour les autres, et on va pouvoir déduire après ça qu'est-ce qui se passe. Vous rappelez-vous de l'église de Corinthe? Vous rappelez-vous de la Sainte-Seine dans l'église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 11, où dans le temps de la Sainte-Seine, vous savez, à l'époque de la Sainte-Seine, c'était des repas agapés, on venait, puis tout ça, puis là, on partageait la nourriture, puis tout ça, mon ami coupait le bœuf, puis le poulet, l'agneau, let's go. C'était là les gros, gros repas. Mais dans l'église, il y avait des gens qui étaient pauvres, comme il y avait des gens qui étaient très riches. Il y avait des esclaves, comme il y avait des propriétaires de grandes entreprises. Et on découvre, en lisant 1 Corinthiens 11, que ces présidents, quelques-uns des présidents, pas tous, mais quelques-uns de ces présidents-là très riches, arrivaient très tôt dans l'après-midi, puis ils avaient le vin en abondance, avaient la nourriture en abondance. Et là, tu avais des pauvres qui arrivaient pour prendre la Sainte-Seine, n'avaient même pas d'argent pour avoir du pain, pas d'argent pour avoir le poulet, l'agneau, tout ça. Ils avaient la difficulté à manger. Mais voilà que les riches ne donnaient pas de nourriture aux pauvres, même s'ils étaient dans l'assemblée chrétienne, qu'ils étaient évangéliques. Ils étaient là, puis c'était le festin, puis ils avaient du bon temps. Ils avaient tellement du bon temps à un point tel que quelques-uns d'entre eux étaient ivres. Imaginez prendre la Sainte-Seine quand tu es ivre. C'est comme... Tu as de la misère à discerner le corps du Seigneur. Hein? Tu as de la misère à discerner le corps qui est en avant de toi. Puis tu as certainement de la misère à discerner le corps du Seigneur. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, non, ça, c'est pas sain, cette affaire-là. C'est pas sain. Alors que, pensons-y, la Sainte-Seine a pour but de démontrer qu'il n'y a plus de différence en Christ. Le but même de la Sainte-Seine est de nous rappeler que nous sommes tous, nous avons tous une allégeance, frères et sœurs de sang, le sang de Christ. Et alors, même que ce rituel devrait étaler qu'il n'y a plus de différence entre juifs ou grecs ou esclaves ou riches et tout ça, il y a de la division dans l'Assemblée. Ici, il n'y en avait pas. L'amour des Thessaloniciens, tu pouvais être multimillionnaire, tu pouvais t'appeler un Pélado, là, chrétien évangélique, puis tu pouvais t'appeler Normand Joseph, qui était pauvre comme Job à côté, puis tu pouvais avoir deux personnes là, côte à côte, puis c'était réuni, uni, c'était super. « As-tu besoin du pain? As-tu besoin de quelque chose cette semaine? Aucun problème. Viens me voir. T'as besoin d'une job? Travaille pas. Viens me voir, tu vois, je vais faire de la place dans la compagnie, tu vas pouvoir... » C'était ça qui se passait dans l'église de Thessalonique. Ça paraissait. L'amour grandissait de plus en plus les uns pour les autres. Ça paraissait. Est-ce que ça paraît à l'Église de Longueuil que notre amour est en train de grandir les uns pour les autres? Ah, réjouissons-nous de nous voir les uns les autres le dimanche. Allons-nous nous poser des questions. Des gens, peut-être, tu n'as jamais parlé. Peut-être des gens ici à qui tu n'as jamais parlé. Voyons les voir puis dire, cette semaine, je prends un engagement de prier pour toi. Comment ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu aimerais que je prie Dieu pour toi cette semaine? Imaginez, ce serait merveilleux de voir l'amour de chacun ici grandir de plus en plus à l'égard des autres. D'accord? L'apôtre Paul se réjouit lorsqu'il voit ça. Il bénit Dieu, il remercie le Seigneur parce que leur foi grandit, fait de grands progrès, alors même que c'est très difficile d'être un chrétien. Il rend grâce à Dieu pour aussi leur amour qui grandit les uns les autres. Troisièmement, il remercie le Seigneur parce que les chrétiens de Thessalonique persévèrent dans l'épreuve. Et c'est ce qu'il dit. Il est tellement fier qu'il dit, « J'en parle aux églises de Dieu. J'en parle, je parle de votre persévérance partout dans l'épreuve. » Donc, Paul remercie le Seigneur pour la croissance spirituelle des chrétiens. Et maintenant, il va glorifier le Seigneur. Verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Verset 5. Alors, Paul glorifie le Seigneur pour la parfaite justice de Dieu. Et premièrement, la parfaite justice de Dieu se révélera en ce que les chrétiens obtiendront un jour justice. Malgré que ce soit difficile maintenant, malgré qu'il y a des persécutions, Dieu va juger ces gens-là qui vous persécutent un jour. Et c'est Dieu est parfaitement juste dans tout ça. La persévérance des chrétiens prouve la réalité de leur conversion. Leur persévérance démontre bien qu'ils sont dignes du royaume de Dieu. C'est dans ce sens-là. On parle ici du royaume à venir, du triomphe final, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Alors, cette semaine, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'entendre l'astrophysicien. Je ne sais pas si vous connaissez, il est responsable de toute la programmation éducative du Planétarium à Montréal, Pierre Chastenay. Il était en train de parler dans une émission de radio avec Isabelle Maréchal. Il était en entrevue. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il racontait, il disait, vous savez, il dit, il va falloir travailler très fort pour trouver une nouvelle Terre. Il dit, écoutez, il dit, le Soleil a 10 milliards d'années de vie. Déjà 5 milliards sont passés. Et il dit, il reste 5 milliards d'années. Mettons de côté les dates, là, d'accord? Mettons de côté les dates, je trouve ça intéressant ce qu'il a dit, ce qui va suivre. Regardez bien ceci. Il dit, avant que le dernier milliard d'années arrive, avant ça, le Soleil va commencer à gonfler, et éventuellement, il va commencer à englober l'orbite de la Terre et de Mars. Avant ça, évidemment, la Terre va commencer à chauffer pour finalement se détruire. Alors, il a dit, sur les ondes, un astrophysicien, il a dit, nous devons trouver une nouvelle Terre. Puis il dit, en ce moment, ça fait dur, on n'en a pas d'autre. Il dit, on n'a pas trouvé, on ne sait pas où on s'en va, mais les prochains scientifiques doivent travailler très fort pour essayer de trouver une nouvelle Terre, déménager tout le monde, parce qu'on est fait, la Terre va se détruire. Hey, amen, frères et sœurs, nous, y a... Nous, on sait qu'il y a des nouvelles terres, des nouveaux cieux. On sait, c'est écrit, les amis. Et l'apôtre Paul est en train de dire, un jour, si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez y aller. Bon, ça, vous n'êtes pas assez excité, là. Je pense qu'on devrait avoir les applaudissements au Seigneur, là. Ah, yeah! Ah, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Hein, le cœur, hein? Tu étudies les Écritures, puis ton cœur, ah, mon ami, wow, le cœur. Plein de louanges. L'apôtre Paul ne pouvait plus se contenir, plein de louanges. Mais si au dernier jour, certains obtiendront justice pour les incroyants, ce sera l'heure du châtiment, par exemple. Et Dieu est juste dans ça aussi. Verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il y a un jugement qui s'en vient. Et Dieu est juste là-dedans. Et l'apôtre Paul est en train de glorifier Dieu parce que Dieu est parfaitement juste. à faire justice pour les saints, pour les enfants de Dieu, et faire justice pour ceux qui nous affligent. Malheureusement, beaucoup de personnes rejettent la notion de châtiment dernier, et pourtant, c'est écrit à maintes reprises dans les Évangiles. Et le tableau final est terrible. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Alors, c'est pour ça qu'on veut présenter l'Évangile à tout le monde. On veut leur donner l'Évangile, donner l'occasion aux gens de venir à lui. Et verset 10 dit, « Lorsqu'il viendra ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. » Et ce que nous avons besoin de retenir dans notre temps de prière, c'est de garder l'espérance de la fin. Est-ce qu'on garde cette espérance-là que Jésus revient bientôt? Et ça l'influence, ça l'inspire ta prière lorsque tu gardes ça à l'esprit. C'est la raison pour laquelle Paul va adresser ensuite, après avoir remercié le Seigneur, glorifié Dieu pour sa justice. Après ça, il fait deux requêtes au Seigneur pour les chrétiens. La première, c'est qu'on vive d'une manière digne de cet appel-là. Sous la plume de Paul, à chaque fois qu'on parle d'appel, on prend pour acquis qu'il y a un effet après. Donc, il dit, si vous êtes appelés, c'est parce que vous êtes sauvés. Donc, en d'autres mots, vivez comme ce que vous êtes des enfants de Dieu, vivez comme tels, comme des enfants de Dieu, dignes d'être enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, alors comportez-vous comme tels. Et c'est ça sa prière, verset 11, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, de l'appel qu'il vous a déjà donné. Il vous a sauvés, vivez comme tels. Et deuxièmement, Paul demande à Dieu qu'il leur donne la puissance de réaliser le bien qu'ils désirent d'accomplir. Alors, regardez bien ça, cette phrase-là. C'est assez étonnant, c'est assez impressionnant. Verset 11, « Que Dieu accomplisse par sa puissance toutes les bonnes choses que vous voulez faire. » C'est comme si Dieu, c'est comme si Paul prend pour acquis que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu vas vouloir faire des bonnes choses. Tu vas avoir des projets. C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Tu le sais, quand tu es venu au Seigneur, peut-être la première chose que tu voulais faire, c'est de gagner toute la ville de Longueuil. Vrai? Tu as des projets. Dieu va te mettre des projets à cœur. Et c'est quoi tes projets? C'est quoi tes rêves? L'apôtre Paul prend pour acquis que si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, Dieu va placer en toi le vouloir de réaliser des projets, des belles choses pour lui. Alors, Paul est en train de prier que Dieu, par sa puissance, vous rende capable de le faire, qu'il vous donne du succès à réaliser les projets que vous voulez faire, qu'il a mis dans votre cœur. Hey, imaginez, c'est toute cette semaine, c'est toute la gang, on commence à prier pour demander à Dieu, « Seigneur, il y a plein de monde ici. Et tu as placé des rêves et des projets dans le cœur de plusieurs personnes. » On sait, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et disent « Ah, moi, j'aimerais ça partir ça. » Bravo! Que Dieu te donne du succès dans ce rêve-là. C'est ça la requête de Paul. Deux requêtes. Qu'on vive d'une manière digne de cet appel-là qu'on a reçu. Et deuxièmement, qui nous donne la puissance par son esprit de réaliser les beaux projets que Dieu met sur notre cœur. Amen. On a des bonnes requêtes de prière cette semaine. On a des bonnes raisons pour louer Dieu cette semaine, pour tous les beaux fruits qui se passent. Et tout ça est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et c'est ça que Paul nous rappelle, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. C'est Dieu par sa puissance. Par nous-mêmes, on ne peut rien faire, mais Dieu, avec Dieu, on peut faire de belles choses. Laisse-moi vous dire. Prions, Seigneur. Ah, Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans la vie des chrétiens. Ces beaux fruits que l'on voit entre les frères et sœurs, pour la foi qui grandit, pour des gens qu'on voit, Seigneur, et qu'on n'a pas vu depuis un bon moment, qu'on voit aujourd'hui encore plus déterminés à te suivre et faire des belles choses pour toi. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans cette Église, dans la vie des frères et sœurs. Nous te bénissons. Et notre quête ce matin, c'est justement que nous puissions vivre selon l'appel que tu nous as donné et que tu puisses, par ton esprit, réaliser ces beaux projets que nous chérissons dans notre cœur et que tu as placés là. Amen.